Les titres du journal.
Saint-Jean Golf est entré dans un club très fermé, celui des villages français labellisé Station Verte, une appellation qui vient récompenser les communes les plus actives en matière d'écotourisme. Un documentaire unique sur l'hôpital Riviera-Chablais va sortir le 15 septembre prochain. Nous vous proposons un entretien en deux parties avec le réalisateur de Et dehors, la vie continue. A priori, pas de duel pour décrocher la présidence du PLR. Thierry Burkhardt est seul à s'être porté candidat pour succéder à Petra Gössi. L'élection est prévue pour le 2 octobre. Et en football, le FC Vevey United va devoir patienter avant d'afficher une équipe professionnelle à son tableau de chasse en Coupe de Suisse. Opposé à Kriens, samedi au premier tour, les Vaudois ont cédé dans les 10 dernières minutes.
Et côté météo, ce sera mitigé pour cet après-midi avant le retour du soleil demain. La météo complète après le journal de midi. Le journal de la mi-journée avec Isabelle Bertolini. Bonjour Isabelle.
Bonjour. Samedi, Saint-Jean-Golf a intégré le club des communes françaises labellisé Station Verte. Actuellement, elles sont moins de 500 sur près de 36 000 à avoir été récompensées. Cette appellation vise à saluer les efforts consentis en matière d'écotourisme, mais aussi la qualité de vie générale d'une ville ou d'un village. Pour délivrer le label Station Verte, des experts se rendent sur place et mènent une sorte d'enquête sur la commune. Explication de Joël Grand-Colo, adjoint au maire de Saint-Jean-Golf et délégué au développement.
Ces critères, ils sont assez variés. Ça va de la capacité d'hébergement au type de commerce qu'on peut trouver dans la commune. Ça passe aussi par l'organisation d'un certain nombre de manifestations en lien avec la nature et l'environnement, d'événements tournés vers les familles et les enfants plus particulièrement. Ça passe aussi par le respect d'une démarche environnementale sur les espaces verts, sur la qualité des eaux de baignade, etc. Donc c'est des critères assez précis qu'on ne respectait pas forcément il y a ça 5 ans en arrière encore, mais grâce à tous les aménagements et investissements qui ont été faits ces 2 dernières années, on a pu remplir ce référentiel et obtenir ce label Station Verte cet été.
Parmi les métamorphoses qui ont pesé dans la balance, on peut relever le réaménagement des quais de Saint-Jean-Golf ainsi que le début des travaux de la salle des fêtes, un sujet concocté par Quentin Frey.
Une course d'orientation un peu spéciale a eu lieu ce week-end.
Il s'agissait de la Climate Express Valais-Chablais, organisée par le VVF Youth. Une course d'orientation en binôme basée sur le modèle du Pékin Express. Sa particularité, elle vise à mettre en avant des initiatives de transition et de développement durable. Le tout avec l'impact CO2 le plus faible possible. Mae Kung a participé, elle explique pourquoi.
Alors, il y a une des organisatrices qui nous a proposé de participer et j'avais rien à faire pendant ces vacances, du coup j'ai dit oui. Et puis en plus, ça fait plaisir de voir du monde, d'être un peu à la nature comme ça, franchement c'est super.
Et tu sais déjà un petit peu ce qui t'attend ou bien pas du tout ?
Aucune idée, alors vraiment aucune idée.
Il est vrai que la quinzaine de bénévoles de VVF Youth a tout fait pour éviter les fuites, ce que confirme une autre participante, Léna Rossignol.
C'est vrai qu'on a zéro info depuis le début et que c'est tout step by step. C'est excitant. Puis on découvre des choses petit à petit. Voilà.
Et t'attends quoi de cette expérience ?
Mes deux attentes, moi, c'est d'apprendre des choses. Donc là, déjà, depuis ce matin, on a appris pas mal de choses. Donc c'est sur les animaux, sur la région. J'ai hâte d'en apprendre plus. Et puis ma deuxième attente, c'est tout simplement voir des beaux paysages et découvrir le Valais.
L'idée était justement de parcourir le canton, mais ça, les participants ne le savaient pas. À chaque étape, ils ont reçu un indice pour la destination suivante. Nicolas Fontaine a accompagné le projet, il donne un peu plus de détails.
Alors ce qui attend les participants, ça sera la découverte d'un magasin bio en vrac, la découverte d'un verger, de certains jus de fruits de notre canton. Ça pourrait être aussi des épreuves un peu plus sportives, mais aussi énormément d'ateliers et de découverte, d'apprentissage sur comment faire le changement et notre transition écologique.
Propos recueillis par Quentin Frey au tout début du périple. Celui-ci s'est terminé hier soir à Sierre. En 3 jours, ils ont notamment eu l'occasion de visiter les vergers d'Opaline Abbé, de faire du paddle à la Gouille de Saint-Trifon ou encore de participer à un atelier dans l'épicerie bio de Montet chez Mamie.
Un réalisateur lausannois a suivi l'épopée de l'hôpital Riviera-Chablais durant 10 ans.
Concours d'architecture, arrêt de chantier ou encore déménagement unique en son genre en Suisse, Daniel Maurer a été le témoin privilégié d'une aventure hors norme. Dans une interview en deux volets, il parle de ce qu'il a touché durant cette décennie et ce qu'il a poussé en 2019 à réaliser « Et dehors, la vie continue ». Aujourd'hui, il raconte sa perception d'un hôpital, un lieu sacré, selon Daniel Maurer. Il s'exprime au micro de Joël Espy.
C'est beau, hein ? On se croirait dans un hôpital.
On se croirait.
Tellement c'est blanc et propre.
C'est un film sur... En fait, il filme deux mondes. Il filme le monde des concepteurs d'un hôpital, des gens qui sont responsables, les membres du conseil d'établissement, de la direction, voilà, les gestionnaires, on peut dire peut-être, créateurs aussi de l'hôpital. Et ça, c'est un fil que je suis, la construction de l'hôpital aussi. L'hôpital devient elle-même un peu... le bâtiment, un personnage, je dirais, dans le film.
Et des gens qui, par contre, là, n'applaudissaient plus au balcon, qui étaient même pas contents d'attendre aux urgences. Il a fallu rappeler plusieurs fois en salle d'attente qu'il y avait quand même une pandémie qui s'appelait le Covid. Donc, si les gens attendaient, c'est parce qu'il y avait énormément de monde à soigner.
À côté de ça, je filme le travail des soignants qui, eux, font un travail de humain à humain. Et voilà, pour moi, c'était très important de montrer cette réalité d'un soignant qu'on croit connaître, mais finalement, je découvre moi-même en les filmant que je connais très peu la réalité d'un hôpital. C'est-à-dire, en particulier, là, c'est des soignants qui travaillent dans les urgences, qui est un lieu où j'ai dit une fois à un des soignants, chez vous, il y a toute la misère du monde qui débarque, quoi. Il y a tout ce côté caché qui se voit là-bas.
Je dois vous avouer qu'on s'est demandé si nous étions à la tête d'une association de malfaiteurs ou à la tête d'une joyeuse équipe d'incompétents.
Moi, j'ai beaucoup filmé le chantier aussi. Alors, j'étais vraiment dans le chantier tout au début... où vous sortez plein de poussière et il y a le bout de béton et tous ces murs là qui se construisent. Il y a toujours eu ces longs couloirs dans cet hôpital qui m'ont un peu impressionné, cette rationalité. Et ça, j'ai trouvé toujours très intéressant et je crois que ça ressort aussi dans certaines images qui sont dans le film, que cet hôpital très rationnel, très carré, incarne bien notre rapport à la santé. Parce que c'est une bonne image aussi comment nous, on traite la maladie.
C'est la première fois qu'il est employé ?
Oui, c'est la première fois qu'elle est employée.
Oh, j'espère qu'il marche.
Vous inaugurez tout ?
Ben,
la machine,
le trajet,
le local.
Vous êtes rendu compte en fait que l'hôpital était un endroit particulier, c'est ça, hein. Vous dites même que c'est un lieu sacré. C'est ça qui vous a orienté quand vous avez continué de tourner ou quand vous avez décidé de produire ce documentaire en 2019 ?
Oui, en 2019, on m'avait demandé si je pouvais couvrir justement ces événements comme le concours d'architecture et la suite. Et moi, je me suis dit, quel intérêt personnel, moi, autant que réalisateur, je vais trouver dans ce sujet. Et dès le début, je me suis dit, mais un hôpital, il y a des histoires humaines incroyables qui se passent dans ces murs. Alors, tout de suite, ce côté-là m'a intéressé. Et ouais, c'est une réflexion banale, quelque part, mais de se dire, c'est un lieu quand même incroyable. C'est un lieu où j'arrive dans ce monde et souvent je quitte ce monde. C'est un lieu quand même que nous, dans notre société... à une place très importante, quoi. Je dirais. Et c'est pour ça que je me dis, la construction d'un tel bâtiment n'a rien de banal, quoi.
Demain, Daniel Maurer nous parlera des humains qui font la chair C et qui l'ont conduit en 2019 à rassembler ses images pour réaliser le documentaire. Et ici, la vie continue. Une nouvelle campagne d'information sur la vaccination contre le coronavirus a été lancée aujourd'hui en Suisse. L'objectif de l'Office fédéral de la santé publique, convaincre ceux qui hésitent encore à franchir le pas. Il espère ainsi contenir une nouvelle vague de la pandémie crainte pour cet automne. Précisons que près de deux tiers des plus de 18 ans ont reçu au moins une dose du vaccin. Les candidats à la vaccination se font toutefois de plus en plus rares.
Oui, Isabelle. je veux bien parler. Mais...
je vous ai fait un petit signe dans le vide, pardon. Le conseiller aux États argovien Thierry Burkhardt sera, selon toute vraisemblance, le nouveau président du Parti libéral radical suisse. Il est le seul à s'être porté candidat à la succession de la schwitzoise Petra Gössi, qui a annoncé son retrait après 5 ans et demi de présidence. Avec une candidature unique, le PLR s'évite une opposition de style et de fond. Thierry Burkhardt est catalogué bien à droite. Les explications à Berne de Serge Jubin.
L'avocat célibataire argovien et capitaine à l'armée Thierry Burkhardt, qui aura 46 ans samedi, est un caractère fort, droit dans ses bottes, aux idées libérales bien arrêtées. Défenseur du lobby routier, il préside l'association des transports routiers, proche de la conseillère fédérale Karine Keller-Souter, dont certains murmurent qu'il pourrait être la marionnette. Il n'a pas l'habitude de louvoyer, quitte à se mettre en porte-à-faux avec son propre parti. Dans les actuels dossiers brûlants, il a milité contre la loi sur le CO2 et contre l'accord institutionnel avec l'Union européenne. La probable accession à la présidence du PLR de Thierry Burkhardt sonne le glas du style Petra Gössi. La parenthèse de la présidence féminine est refermée, tout comme le virage climatique qu'elle avait amorcé. Reste à se demander si Thierry Burkhardt sera le président dont le PLR a besoin, un PLR qui a connu des désillusions électorales en 2019 et dont le deuxième siège au Conseil fédéral risque d'être contesté en 2023.
Thierry Burkhardt, qui s'exprimera en ce début d'après-midi, donne un premier élément de réponse. Il présidera avec une équipe élargie.
L'actuelle équipe présidentielle du PLR est restreinte, une présidente et 2 vice-présidents. Thierry Burkhardt a fixé une condition à sa prise de pouvoir, il veut une assistance élargie, le PLR devra adapter ses statuts. L'argovien veut conserver les 2 actuels vice-présidents, la Penzellois Andrea Caroni et le Valaisan Philippe Nantermo. Il en veut 2 autres, plus jeunes encore, la conseillère aux États fribourgeoises Johanna Gapani, qui prend ainsi du galon, et le conseiller national zurichois André Silberschmidt, 33 et 27 ans. Ils ne sont élus fédéraux que depuis 2019. Pour autant que sa candidature soit validée par les présidents cantonaux et l'Assemblée des délégués les 1er et 2 octobre, Thierry Burkhardt portera le drapeau d'un PLR plus libéral, franchement plus jeune, qui ne craindra pas de prendre des positions qui lui sont propres et pas forcément dans l'air du temps.
C'était notre correspondant à Berne, Serge Jubin.
Le débat politique sur les relations entre Suisse et Union européenne revient sur le devant de la scène.
Et cela dès aujourd'hui à Berne, malgré l'abandon de l'accord institutionnel, le Conseil fédéral demande de débloquer ce qu'on appelle communément le 2e milliard de cohésion. Comme elle l'avait fait entre 2007 et 2016, la Suisse verserait de son plein gré sur ces 10 prochaines années un nouveau milliard de francs aux pays nouvellement entrés dans l'Union européenne pour les aider à combler leur retard de développement. Le Parlement avait donné son accord en 2019 à cette nouvelle contribution, mais avait gelé le versement tant que l'Union européenne appliquait des mesures discriminatoires à la Suisse. Le Conseil fédéral demande de passer outre les conditions. Les explications, encore une fois, de Serge Jubin.
La commission de politique extérieure du Conseil des États empoigne le dossier ce lundi. Les 2 chambres devraient décider formellement lors de la session de septembre. Une majorité réunissant notamment la gauche et le PLR devrait débloquer le crédit, qui se monte en réalité à 1,3 milliard sur 10 ans, avec 190 millions pour des mesures liées à la migration. Pour le conseiller aux États socialistes genevois Carlos Somaruga, foin de pinaillage, la Suisse doit verser et même 1 milliard supplémentaire.
Aujourd'hui, il faut faire des pas en direction de l'Union européenne si on veut retrouver un courant normal que nous avions par le passé. Nous avons brutalement glissé dans le statut d'État tiers. Il faut absolument libérer ce milliard. Nous avons un modèle particulier qui fait que ça va pas dans la grande caisse de l'Union européenne, mais c'est sur des projets concrets dans les divers pays. Mais il faut également voter 1 milliard supplémentaire, puisque pendant maintenant pratiquement 8 ans, nous n'avons rien versé.
La Suisse est pénalisée par la non-reconnaissance de l'équivalence boursière par l'Union européenne, désormais aussi par la non-reconnaissance des MedTech, et elle est mise à l'écart des programmes de recherche Horizon. Ne faut-il pas conditionner le versement du milliard de cohésion à la levée des discriminations? Le libéral radical vaudois Laurent Verly pense que ce n'est pas une bonne idée.
Je pense que très sincèrement, quand on veut faire en guillemets du chantage en disant « je te donne ça, mais seulement si tu me donnes ça », et qu'on ne parle pas du même sujet, ça me paraît toujours très boiteux. Et en l'occurrence ici, je pense qu'il est de bon ton qu'on démontre notre capacité d'être des partenaires de parole.
Et si c'était un aveu de faiblesse de ne pas conditionner la contribution, Carlos Somaruga.
C'est pas 1 milliard qui est versé sans contrepartie. L'accès au marché unique européen est extrêmement avantageux pour notre économie. Je rappelle qu'un pays comme la Norvège paye 5 milliards par année pour participer au marché unique alors qu'elle est dans l'espace économique européen. C'est un geste qui est un geste de cohérence et qui est un geste qui va être perçu de manière positive par l'Union européenne et on n'affaiblit pas du tout la position de la Suisse.
L'Union européenne a elle-même fait un lien politique entre le versement du milliard de cohésion et la réintroduction de la Suisse dans le programme Horizon. Pourquoi ne pas le faire aussi, Laurent Verly?
Est-ce qu'on gagnera mieux en conditionnant et donc en forçant la main ou en faisant un geste de bonne volonté? Et sans aucun doute, ça permettra justement de débloquer, voire peut-être même de débloquer plus facilement la question du programme Horizon que si on fait une condition juridique ou une condition parlementaire.
Si le PLR et la gauche ont arrâté leur position, le parti du centre se tâte encore. Les sénateurs, PDC, membres de la commission de politique extérieure, Béatrice Eder et Pirmin Bischoff, n'ont pas voulu donner leur position avant la séance de commission, on sent bien qu'ils ne sont pas très chauds à verser l'argent les yeux fermés. Et il reste un adversaire résolu à cette contribution, l'UDC, le Genevois Yves Nideger.
C'est totalement inapproprié. La déclaration de M. Parmelin a eu l'immense avantage de ramener de la clarté dans le débat. La Suisse ne fait pas partie et n'entend pas accéder au marché unique. Et les obligations de paiement, c'est un peu la péréquation au fond intercantonale qu'on connaît en Suisse. Les cantons riches payent pour les cantons pauvres, encore faut-il être un canton. Le message contraire consistant à dire « vous nous frappez injustement, nous allons vous récompenser en vous payant », c'est un message totalement absurde.
Au-delà du principe, le débat s'annonce complexe. Il pourrait y avoir des propositions de retarder encore le versement, le réduire, le conditionner. La forme fait aussi débat. L'arrêté tel que prévu ne peut pas être soumis au référendum. Sera-t-il adapté pour que le peuple soit une nouvelle fois consulté? Voici donc arrivé un nouveau débat brûlant sur la relation Suisse-Europe.
Un dossier préparé par Serge Jubin.
L'Afghanistan est aux mains des talibans.
Des insurgés ont célébré leur conquête hier soir en investissant le palais présidentiel. Triomphe qui a déclenché des scènes de panique au sein de l'aéroport de la capitale Kaboul. Une marée humaine a tenté de rallier la seule porte de sortie du pays afin de fuir le nouveau régime qui sera mis en place par le mouvement islamiste radical. Et trois Suisses ont été évacués de Kaboul justement cette nuit. Il s'agit de trois membres du bureau de la direction du développement et de la coopération. L'annonce de leur évacuation a été faite sur Twitter par le conseiller fédéral Ignacio Cassis. Les 40 employés locaux de la DDC et leurs familles doivent recevoir un visa humanitaire rapidement afin d'évacuer. L'Allemagne, elle, évacue également son ambassade et réfléchit à déployer des soldats en Afghanistan afin d'évacuer ses ressortissants ainsi que les Afghans menacés. Une demande a été transmise aux députés. De son côté, la Russie a annoncé que son ambassadeur à Kaboul rencontrerait les talibans demain. Moscou précise qu'il décidera de reconnaître ou non le nouveau pouvoir afghan en fonction de ses agissements. Et enfin, la Chine, elle, a indiqué ce matin vouloir entretenir des relations amicales avec les talibans. Le puissant séisme qui a frappé Haïti samedi a fait près de 1300 morts et 5700 blessés. Un nouveau bilan communiqué aujourd'hui par la protection civile du pays alors que les recherches pour retrouver des survivants se poursuivent. En tout, ce sont près de 30 000 maisons qui ont été détruites par les secousses, laissant des milliers de personnes sans toit. En cyclisme maintenant, Simon Pelaud va débuter une nouvelle aventure dans sa carrière. 6 ans après avoir quitté l'élite mondiale, le Martigneurin va retrouver le World Tour grâce à sa nouvelle équipe. À 28 ans, l'octodurien s'est engagé avec la formation américaine Trek Segafredo pour un contrat d'une durée de 2 ans. Le Valaisan avait déjà évolué à ce niveau entre 2015 et 2016 avec IM Cycling. Simon Pelaud portera ses nouvelles couleurs dès le 1er janvier de l'année prochaine. En tennis maintenant, Daniil Medvedev a enlevé le Masters 1000 de Toronto cette nuit. Le Russe a accueilli le titre après son succès 6-4, 6-3 en finale devant Riley Opelka. Au lendemain de son succès sur John Isner, le numéro 2 mondial n'a rencontré aucune difficulté pour s'imposer face à l'autre géant américain qui disputait sa première finale dans un Masters 1000. De son côté, le Russe signe son 4e titre dans cette catégorie. Il s'avance comme l'un des favoris du prochain US Open dont il fut finaliste il y a 2 ans.
En football, la Coupe de Suisse a encore offert son lot d'émotions au FC Vevey United.
4 mois après avoir fait douter Servette, la formation de la Riviera est à nouveau passée proche d'un exploit samedi au stade de Coppet. Opposé au premier tour au SC Kriens, pensionnaire de Challenge League, les Veveysons, qui militent 2 échelons plus bas donc, ont résisté durant plus de 80 minutes. Mais 2 actions de rupture lucernoise ont eu raison des espoirs vaudois en fin de match. Les 2 équipes se sont ainsi quittées sur le score de 3-1 en faveur des joueurs professionnels. Pour son premier match officiel de la saison, le FC Vevey United n'a donc pas réussi à créer la surprise. À en croire le milieu de terrain Kevin Timba, les chances auraient été plus grandes si ce duel avait eu lieu quelques semaines plus tard.
À choisir, c'est préférable bien sûr d'avoir quelques matchs dans les jambes. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On a dû faire avec le calendrier, on s'adapte et on a tout donné.
Après Servette, après Kriens, vous passez une 2e fois tout près de l'exploit. Qu'est-ce qui manque maintenant pour vraiment créer cet exploit et arriver à éliminer un gros en coupe?
Je pense que ça joue sur des détails. Ça joue sur des détails. La concentration et toujours croire en nous. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas passé encore une fois. Mais je pense que c'est de bon augure pour la suite.
Et dans l'immédiat, la suite pour le FC Vevey United, c'est la reprise du championnat de Première Ligue le week-end prochain. Y a-t-il des enseignements à tirer de ce match de Coupe de Suisse en vue du début de la saison? La réponse de l'entraîneur veveysan Christophe Cachilli.
Les enseignements, on n'a pas besoin de ce match-là pour en avoir, parce que c'est vrai que c'est des matchs un peu spéciaux, c'est une compétition à part. Le championnat, c'est notre pain quotidien. Là où on doit être très bon, c'est ni tactiquement ni physiquement, là c'est mentalement. Il faut être capable de digérer et de le faire vite pour se plonger dans le championnat. Je pense que voilà, on brille beaucoup en coupe. Cette équipe de Vevey fait beaucoup parler d'elle en coupe. Moi, j'aimerais que maintenant, on se concentre un peu plus sur notre championnat, sur notre régularité en championnat et faire un championnat digne de ce nom. Et en tout cas, le finir, ça serait déjà intéressant, le faire de manière complète.
Des propos recueillis par Julien Traxel. Pour son premier match de la saison de Première Ligue, le FC Vevey United se rendra samedi à 17h30 sur le terrain du FC La Chaux-de-Fonds.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch. La météo avec Art Optique, lunettes, lentilles et solaires. Aroptique.ch.
Le temps va rester couvert durant cette suite de journées, sauf pour la Riviera où on attend des éclaircies selon Météo Suisse. Le temps devrait d'ailleurs rester au sec avant un retour possible des précipitations en soirée et durant la nuit prochaine. Pour les températures, on attend 23 en pleine, 19 à 1000 mètres et 16 à 2000. Enfin, pour demain, la bonne nouvelle, le retour du soleil est annoncé avec des températures comprises entre 14 et 22 en pleine, entre 11 et 18 à 1000 mètres et entre 6 et 10 à 2000. La météo à 6 jours, radiochablais.ch.